Alors aujourd'hui, vous avez eu deux circonstances qui viennent préparer cette instruction. Chronologiquement, la première, c'est l'épître de la messe de ce matin, la messe, la fête de Sainte-Anne sur la femme forte, si vous en souvenez. La femme forte, tirée du livre de la Sagesse, qui est un modèle de... Les pères de l'Église y ont vu une figure de Notre-Dame, et qui nous montre, effectivement, qui vous montre tout spécialement, un grand modèle de sainteté à la fois pratique, puisque vous avez beaucoup de détails dans cet épître, que vous pourrez relire à l'occasion, et qui sont bien sûr essentiellement à sens symbolique, spirituel. Alors il faut pas hésiter à aller voir les commentateurs. Saint Bernard en a fait un commentaire notamment. Deuxième circonstance, vous comprendrez pourquoi je les rassemble, c'est le serment tout à l'heure de Mgr Lefebvre, au repas de ce soir, qui nous indiquait cette fête de Pâques comme le point de départ de la vie, et non pas le terme. Point de départ, un petit peu, qui nous reste à vivre à partir du moment où nous sommes délivrés par la Pâque, par le passage, et qui nous fait désormais devoir traverser le désert pendant 40 ans, ou 80, disait-il, et qui constitue notre vie terrestre. Et je voudrais vous parler ce soir de ce qu'est justement cette traversée du désert, on pourrait dire, même si j'appellerais ça plutôt le combat spirituel. Notre vie chrétienne est effectivement un combat. Un combat. Alors ce mot est guerrier, ce mot est fort, mais il représente une lutte de tous les instants, et ça nous fait peur, ça nous hérisse, parce qu'on se dit qu'on n'a pas envie de combattre. Et peut-être qu'au bout de deux jours, c'est ça, deux jours pleins en tout cas, de retraite, la notion même de combat commence déjà à irriter ou à agacer. C'est bon signe, ça veut dire qu'il y en a un qui se produit, c'est celui d'une retraite. Et je voudrais donc faire ce lien entre la vie chrétienne, qui est un combat, et l'expression n'est pas de moi, vous l'aurez reconnu, elle est de saint Paul essentiellement, et dans une vie de retraite, ce qui se passe. N'oublions pas que vous vivez actuellement un temps de sainteté, essentiellement, mais ce temps de sainteté est un modèle réduit, si je puis dire, de votre vie. Ça ne veut pas dire qu'il en est le résumé absolu, c'est-à-dire que vous allez vivre les mêmes choses dans votre vie, c'est pas du tout ça. Cela veut dire que il est composé de même type d'événements que nous avons dans notre vie. C'est-à-dire que nous avons des périodes, allez, je prends des grands mots, d'euphorie, et puis nous avons des périodes de creux de vague. Alors on appelle ça plus techniquement des désolations et des consolations. Et tout cela va se retrouver dans la retraite. Et parce que cela se trouve dans notre vie, et cela se retrouve dans le temps réduit d'une retraite. Alors sachons bien utiliser, connaître et utiliser ces moyens et ce repérage de nos difficultés éventuelles pour vivre bien cette retraite, qui n'est pas finie, j'allais dire qui va commencer maintenant, puisque certains d'entre vous se sont confessés, et puis la plupart vont le faire demain. Donc l'essentiel va pouvoir commencer après la confession. C'est toujours comme cela qu'on voit les choses dans une retraite. On se débarrasse de nos péchés, puis après on peut être à Dieu. C'est normal. Quand vous faites un aménagement de maison, vous enlevez d'abord ce qui est ancien, et surtout si ça ne vous appartient pas. Donc vous allez emménager avec le bon Dieu, et pour cela il faut débarrasser le plancher. Alors, les fondements de ce combat, de notre vie, eh bien, ils sont dus... pourquoi il y a combat? C'est parce que nous avons une condition d'homme et d'homme pécheur, d'êtres humains pécheurs. Et de ce fait, nous ne pouvons pas obtenir le ciel, obtenir la paix, le repos, l'absence de combat donc, sans rien faire. C'est parce que nous sommes nés avec le péché originel, c'est parce qu'il y a eu le péché originel, et puis c'est parce que Dieu nous a créés libres et qu'il veut récompenser cette liberté qui a été bien utilisée, que nous pouvons prétendre à la fin d'un combat, à la fin, en tout cas, à l'obtention d'une récompense. Alors le problème de ce combat, c'est qu'il est non seulement externe, mais aussi interne. Alors externe, souvent, on a plus de facilité à voir éventuellement l'ennemi. On verra un petit peu pour cet ennemi qu'est le démon. C'est externe à nous, ça n'est pas nous, même s'il peut agir en nous, en tout cas il essaye, mais il ne peut pas agir sur notre liberté, sur notre volonté, ça lui est impossible, il est extérieur à nous. Et puis il y a le combat intérieur, et là on est déjà beaucoup plus démunis pour faire face, parce que c'est en nous. Alors c'est nous contre nous, donc on est quand même mal placé pour agir efficacement. Alors déjà ce combat externe, eh bien, il y a deux sources, c'est Saint Jean qui nous le rappelle, c'est le monde et le démon. Facile à retenir, les deux se composent des mêmes lettres. Eh bien, et puis on a aussi, mais là un degré divers, comme combat externe, ça peut être effectivement le prochain qui peut être source de combat, parce qu'il y a hostilité, inimitié, etc. Mais disons que c'est surtout dans ce contexte du monde et du démon qui sont de réelles comme de réelles forces. Pourquoi ? Bien parce que le démon évidemment est un être qui nous veut du mal. Le monde en soi c'est une entité trop vague. On peut pas dire le monde nous veut du mal. C'est pas ça. Mais le monde est un mauvais exemple généralement. Donc ça nous constitue une incitation au mal, au sens où Saint Jean, notre Seigneur eux-mêmes, le disent, le monde, c'est cet esprit, finalement, d'éloignement de Dieu. Vous voyez, c'est une simplification, c'est vrai, ça ne veut pas dire que tout le monde et tous les gens du monde sont mauvais en eux-mêmes, et ça représenterait une espèce de force du mal qui serait face à nous et qui nous empêcherait d'aller à Dieu, mais il y a dans le monde, le terme de la Sainte Écriture représente tout ce qui est opposé à Dieu. On oppose le monde à Dieu. Et cela, ce combat, eh bien, va nous stimuler, ce combat nécessaire contre le monde, contre le démon, va nous stimuler parce que puisque nous vivons dans le monde et puisque nous sommes face à ce démon qui ne cherche qu'à nous faire tomber, eh bien, il faut savoir réagir. Donc, ça n'est pas négatif, cette existence du combat, puisqu'elle va nous réveiller dans notre nécessaire recherche du bien, recherche de la récompense. La récompense étant céleste. N'oubliez pas, je vais faire le parallèle avec ce serment de Mgr Lefebvre, j'ai trouvé une bonne introduction à ce propos de ce soir, c'est la terre promise. N'oubliez pas que ce n'est pas un combat pour combattre, c'est un combat pour obtenir une récompense. Et donc la récompense, c'est la terre promise, pour garder le parallèle. Alors l'existence de ce combat, si vous en doutiez, ce qui me semble peu probable, eh bien, nous l'avons, elle est en plus révélée, cette existence. Saint Paul le dit de nombreuses fois, je vous cite des passages que vous connaissez, dans la première à Timothée, chapitre 6, « Combat le bon combat de la foi, dit Saint Paul à Timothée, conquiert la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait cette belle profession de foi devant un grand nombre de témoins. » Et puis, encore plus connu, la deuxième à Timothée, et là, le lien avec Mgr Lefebvre est encore plus fort. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Il ne me reste plus qu'à recevoir la couronne de justice que me donnera en ce jour-là le Seigneur, le juste juge. » C'est le début de cette citation qui a été gravée à sa demande sur sa tombe, la tombe de Mgr Lefebvre, à Icône. Premier épître aux Corinthiens, dans les courses du stade, c'est la grande comparaison avec cette, non pas c'est directement un combat, mais une compétition. Dans les courses du stade, tous courent, mais un seul emporte le prix. Courez de même afin de le remporter. Quiconque veut lutter s'abstient de tout, eux pour une couronne périssable, nous pour une impérissable. Je traite durement mon corps et je le tiens en servitude, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Ce qui nous donne déjà des indications pour mener ce combat. Il va falloir faire pénitence, mais il va falloir surtout garder en vue les efforts nécessaires à ce combat. Et c'est ça qui irrite, c'est ça qui nous effraie, comme je disais tout à l'heure. Dès qu'on parle de combat spirituel, on se dit, ça y est, il va falloir fournir des efforts, il va falloir faire des sacrifices, faire des pénitences, saint Paul le dit en plus. Et donc, tout ça nous attriste par avance. Eh bien, souvenez-vous de cette femme forte, vous devez être cette femme forte de la Sainte Écriture, et ne seront fortes que celles qui auront compris les enjeux du combat, les moyens pour le mener. Et c'est ce que je voudrais vous aider à redécouvrir ce soir. Le combat n'est pas une fin en soi, attention. C'est ce qui est une fin en soi, c'est la victoire à obtenir, la récompense. Voilà ce qui doit être toujours conservé à l'esprit. Et cela nous est dit par saint Jean dans sa première épître, chapitre 5, verset 4. « Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire sur le monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ?» Alors je vous donne cette citation de saint Jean pour que vous compreniez bien que ce combat ne va pas être mené seul. Et c'est un combat qui prend appui sur la foi. C'est parce que nous avons foi en notre Seigneur Jésus-Christ que nous allons pouvoir mener ce combat. Si j'ai pas de se dire, bon ben j'ai envie de combat, donc je combats, parce que c'est dans mon caractère, ou parce que on l'a dit, donc il faut le faire. Non. Il faut se rappeler que c'est bien par notre foi que ce combat va pouvoir se mener. Et il ne pourra être victorieux que par cette foi. Cette foi qui va se prolonger dans une espérance, puisque ça nous gardera l'énergie, la persévérance, la certitude d'obtenir la récompense en nous appuyant sur le secours divin, c'est le formel de l'espérance, et dans l'amour possédé, dans la vie possédée de Dieu, et là on est dans la charité, c'est la récompense définitivement acquise. Déjà ici-bas, on a une possession de Dieu dans l'état de grâce, mais bien sûr, ultimement, au ciel, dans cette vision béatifique, vision et possession définitive d'un Dieu qui a voulu se partager sa vie. Donc n'oublions pas que ce combat que nous allons essayer de regarder de plus près n'est rendu possible que par Jésus-Christ. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », dit notre Seigneur à ses apôtres. Et il le dit à tous, bien sûr. Alors la retraite, elle va vous permettre de mieux comprendre, de mieux redécouvrir, parce que, pas découvrir grand-chose, mais on redécouvrira certainement la nature de ce combat, les moyens dont nous disposons pour le mener, et puis un rappel, mais ça c'est toute la retraite, qui constitue la récompense promise. Gardez en tête la récompense. Je vous conseille, si vous avez un peu de temps libre, et vous en avez, de lire quelques chapitres de l'Imitation de Jésus-Christ. Je vous en donne, pour information, pour conseil, 3. C'est dans le livre 1 de l'Imitation de Jésus-Christ. 4 livres, c'est dans le premier. C'est le chapitre 12 sur l'adversité. Le chapitre 13 sur les tentations. Et le chapitre 25 sur l'amendement de sa vie. Alors, ça peut vous donner des idées si vous ne savez pas quoi lire dans ces temps libres. Donc chapitre 12, 13 et 25, tous dans le livre 1. Alors quelle est la nature de ce combat spirituel ? Je l'ai dit, il se produit extérieurement et intérieurement. Mais si on voulait résumer brièvement, on reconnaîtrait que, en gros, dans notre combat intérieur, qui est le plus difficile à mener, parce que, je vous ai dit tout à l'heure, c'est nous contre nous, eh bien, ce sont nos facultés inférieures qui se rebellent contre la raison. La faculté la plus noble de notre être, c'est notre intelligence, qui se gouverne par la raison. Eh bien, tout cela est contrebalancé, battu en brèche par nos facultés inférieures, qui sont liées à notre nature humaine. Il ne s'agit pas de dire qu'elles sont mauvaises en soi, hein. Mais comme on a eu le péché originel, on a les conséquences de ce désordre, de ce renversement de l'ordre qui existait auparavant, et cela crée des dissensions, des rébellions de l'inférieur par rapport à la partie la plus noble de nous, qui est la raison. Voilà l'essentiel du conflit. Et on le sait bien, on est bien placés tous pour le savoir, on a ce conflit intérieur. Ce sont toujours les passions, nos facultés sensibles qui sont toujours plus promptes à gouverner notre agir, notre vie. Et du coup, eh bien, on se laisse aller, on se laisse submerger par ce renversement, et c'est là qu'on commet des fautes, c'est là qu'on perd le gouvernement de soi-même. Voilà, vous voyez des expressions que vous connaissez qui sont bien, qui déterminent bien la réalité de ce combat. Il y a donc un conflit, et ce conflit, Saint Paul le résume par deux mots, c'est la lutte de l'esprit contre la chair. L'esprit, donc, il représente nos facultés nobles, la raison, l'intelligence qui ont été faites à l'image de Dieu, et puis la chair qui représente les facultés sensibles, les facultés inférieures. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, il le précise, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, de telle sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. Voilà. Et c'est un combat qui, et là c'est Saint Jean qui le dit, qui le résume, se concentre, on pourrait dire, sur trois foyers internes. C'est ce qu'on appelle les trois concupiscences. Concupiscence des yeux. Alors on appelle concupiscence des yeux ce désir de posséder les choses. C'est pas la curiosité visuelle, hein, c'est beaucoup plus vaste. C'est le désir de posséder tout ce qu'on voit. Enfin, en tout cas, c'est cet attachement à ce qui passe par la vue et qui peut être, la vue, on pourrait dire, accroche des choses qui lui plaisent. Et donc, on s'y attache. C'est cette concupiscence-là qui est la concupiscence des yeux. Un désir de possession, un désir de... C'est ça, d'avoir ce que l'on voit, si on pouvait résumer comme cela. Le deuxième foyer, c'est la concupiscence de la chair. Donc, c'est la recherche de la satisfaction de nos facultés sensibles. Et c'est donc la recherche du plaisir, essentiellement, quel qu'il soit. Et la troisième concupiscence, c'est celle de l'orgueil. Et là, on a un désir d'indépendance, un désir d'excellence dévoyée. C'est-à-dire que l'orgueil se définit par, saint Thomas le définit comme ça, par l'appétit désordonné de sa propre excellence. Et c'est bien précis et c'est très profond. C'est le fait qu'il soit désordonné qui est mauvais. Ça n'est pas que nous ayons un appétit de notre excellence qui soit mauvais. Et ça nous remet dans un vrai christianisme. Je dis cela pour qu'on ne confonde pas le christianisme avec toutes ces déviations qui ont eu lieu à travers les siècles, et notamment sur l'idée que le chrétien est un être qui recherche la médiocrité, la petitesse, etc. Ce qui n'a rien à voir avec l'humilité, justement. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Il y a une déviation sur le sens de l'humilité, parce qu'on n'a pas compris non plus ce que c'était que l'orgueil. Dans l'orgueil, il y a un désir d'indépendance, un désir de s'auto-attribuer sa propre excellence. Alors que l'humilité peut très bien reconnaître son excellence, mais ne se l'attribue pas comme étant soi-même à la source. C'est ce que fait la Sainte Vierge dans le Magnificat. Je ne sais pas si vous avez jamais été frappé par ce Magnificat. Dans ces premiers versets, vous avez quand même une affirmation d'une excellence par la Sainte Vierge. Et pas qu'un peu. Donc, est-ce que c'est que la Sainte Vierge était orgueilleuse? Ben, loin de moi cette expression, bien entendu. Mais qu'est-ce qui caractérise la grande et la plus parfaite excellence de la Sainte Vierge dans ce Magnificat? Ce n'est pas qu'elle dit « je suis parfaitement médiocre », etc. Elle dit « mon âme glorifie le Seigneur et il a fait en moi de grandes choses ». Elle dit pas et etc. Le contraire. Donc, vous voyez bien que ça n'est pas non plus un mensonge. C'est pas dire « je suis la plus nulle de toutes ». Vous voyez, c'est de l'orgueil qui nourrit ce genre de réflexion souvent. Il peut y avoir des exceptions. On voit les grands saints. Voilà, ça peut être que ce cas-là. Les grands saints, les grandes saintes qui sont effrayés de leur néant et de leur médiocrité. Puis nous, on se dit, on aimerait bien être un peu comme eux, parce que au moins, ils commettent une petite imperfection, ça prend des proportions énormes dans leur contrition. Mais parce qu'ils ont une délicatesse de conscience telle qu'effectivement, elles voient, on pourrait dire presque avec des yeux de Dieu, c'est pas exactement ça, mais l'horreur d'une imperfection sur une âme. Dans une âme. Bon. Alors, cet orgueil ou cette humilité, donc, ça n'est pas l'humilité, c'est vraiment, on attribue notre excellence, on voit ce qu'il y a de bon en nous, et on l'attribue à Dieu. Ça n'est pas nous qui en sommes l'origine première. Et donc, ça n'a rien à voir avec cette espèce de médiocrité recherchée comme un idéal. Donc l'orgueil, c'est l'indépendance, et ça, c'est un foyer, effectivement, intérieur. Voilà ces trois foyers contre lesquels nous avons à lutter. Voilà le combat spirituel. Vous voyez, les armes, l'Église, notre Seigneur nous les a données. Vous avez la réponse à ces armes dans l'évangile de la tentation à la fin du jeûne des 40 jours. Vous le retrouvez facilement, puisque c'est le premier dimanche de carême que la liturgie nous le présente. Et nous avons cette réponse de notre Seigneur à ces trois foyers de concupiscence. Dans les trois tentations, nous avons les trois foyers qui sont... Le démon, qui ne sait pas trop s'il a affaire au Fils de Dieu, bien va le tenter comme un homme, c'est un homme de toute façon, et il va le tenter selon ces trois foyers. Il va rallumer le feu des trois foyers, si vous voulez, pour voir, parce qu'il n'y en a pas d'autres, donc ça limite le choix... Et parce qu'il résume tout. Et donc, il va vérifier, il va tester si Jésus est le Fils de Dieu. Et il va lui proposer donc le miracle de transformer les pierres en pain. Donc, c'est la possession de... Celle-là, c'est la chair, c'est le sensible, se satisfaire. Il a faim, ça c'est vrai, 40 jours de jeûne. Et est-ce qu'il va pas se satisfaire rapidement par un simple miracle? Et après tout, on n'aurait pas été scandalisé. Si notre Seigneur avait fait un miracle pour se nourrir à la fin d'un jeûne de 40 jours, un jeûne total, en soi, ça ne nous aurait pas choqué, je pense pas. Eh bien, notre Seigneur ne le fera pas, il va répondre au contraire à chaque fois pour montrer la source de la vraie sainteté. Elle ne sera pas dans cette facilité de la chair ou de... Et puis, même chose pour le fait de se jeter en haut du pinacle ou de posséder la totalité des biens du monde, qui était plus ou moins en possession du démon. Le pinacle, vous voyez, vous imaginez la scène, se jeter du haut du temple, et puis se laisser récupérer par des anges miraculeusement arrivés, ou sortir indemne. Donc quelque chose d'extraordinaire qui donnerait un peu de notoriété à un Jésus qui va commencer une vie publique. C'est une bonne entrée en matière pour se faire connaître. On aurait Jésus, c'est celui qui tombe de très très haut, sans se faire mal. Bon, vous imaginez à la fois le ridicule, c'est là qu'on voit la malice du démon qui ne peut pas faire des choses belles, des choses bonnes. Elles sont forcément ridicules sous un certain aspect, c'est toujours le cas. Y compris dans les apparitions du démon, il y a toujours quelque chose qui déflore, même s'il essaye d'imiter la Sainte Vierge ou quelque chose de beau, il est toujours, il ne peut pas, il est... Et damné, toujours trahi par sa malice. Et puis, donc, la possession des biens, mais si tu m'adores, si tu m'adores, on voit bien là l'orgueil absolu de sa part à lui, mais aussi qu'il propose cette dépendance qu'il propose aux créatures. Et ça, c'est notre cas à tous. Si on résume les trois concupiscences et les trois tentations de notre Seigneur, eh bien, on se rend compte qu'on y passe à ces trois tentations. On y passe à toutes, alors à des degrés divers, à des fréquences diverses, mais on y passe. Donc notre Seigneur y a répondu. Alors ne cherchons pas ailleurs, ne cherchons pas ailleurs les moyens de combattre. Si notre Seigneur a voulu être tenté, n'oublions pas que c'est pour nous. Ça n'est pas pour lui. Donc la leçon, elle est pour nous. Et il faut la prendre. Il ne s'agit pas de se dire, il y a peut-être encore d'autres moyens. Non. Il les a donnés là. Prenons-les. L'Église a poursuivi cet enseignement, bien sûr, et elle a donné aux chrétiens la possibilité de la vie religieuse, notamment, et qui nous donne aussi une bonne indication sur ce combat. Même si on n'est pas religieux, même si vous n'êtes pas religieuse, vous avez la possibilité de prendre l'esprit de ces leçons que l'Église donne. Ces leçons, ce sont les trois vœux de la vie religieuse. Vous les connaissez sans doute, hein, donc pauvreté, chasteté, obéissance. Qu'est-ce que c'est que ces trois vœux? Pourquoi ceux-là et pas cinq autres? C'est parce que ils sont là pour guérir directement les trois foyers de concupiscence. Hein. Vous avez dans la pauvreté, évidemment, le remède par excellence, la pauvreté volontaire, hein, c'est-à-dire on s'engage à ne pas posséder, on ne peut rien posséder de soi, par soi, enfin ça dépend des congrégations, des ordres, mais enfin globalement le vœu est assez strict. Donc, ne rien posséder, c'est évidemment la meilleure façon de ne pas s'attacher et de ne pas nourrir, entretenir ce foyer de concupiscence des yeux. Bon. Chasteté. C'est évidemment le remède, un engagement de remède fort contre tout ce qui va être tentation de la chair. Et enfin, l'obéissance, on s'engage librement à dépendre d'une autorité supérieure qui nous sera manifestée par des intermédiaires ou par un supérieur direct, etc., etc. Donc on voit bien que l'Église... Et c'est pour ça que beaucoup, surtout, on voit dans le Moyen-Âge, hein, cette explosion de la vie religieuse, beaucoup s'engagent en disant, au moins je suis sûr de m'engager sur une voie. Ça ne veut pas dire une voie facile, sans combat. C'est faux, c'est une illusion. Il y a un combat dans la vie religieuse, bien entendu. Le combat, il est pour tous, de toute façon, puisque le problème est interne. Donc, c'est pas parce qu'on est dans un monastère avec un clocher, etc., que brusquement le combat interne disparaîtrait. Vous comprenez bien que ce serait absurde. Donc, il y a un combat qui existe, mais c'est vrai qu'il y a des moyens plus radicaux que d'autres de le mener à bien, et non pas de le supprimer. Alors, les armes de ce combat... Il faut d'abord le connaître, alors j'insiste là-dessus, et puis après agir dans ce combat, être combattant. Pour le connaître, je vous rappelle quand même un élément important qui s'appelle, que vous connaissez si vous avez fait exercice Saint-Ignace, qui s'appelle le discernement des esprits. C'est-à-dire cette capacité de discerner, de repérer d'où nous viennent les inspirations, qui nous sont dans notre vie. Hein. Et là, je vous conseille, si vous avez le livre bleu, ou en tout cas chez vous, d'y revenir. Vous avez cela dans les éditions actuelles, la page 407, donc à 411 pour la première semaine. Alors, je ne vais pas les détailler, mais je voudrais en rappeler pour bien se dire que si on a ça en tête... On reconnaît beaucoup plus vite d'où nous vient, est-ce que ça vient de Dieu, est-ce que ça vient du démon, ou est-ce que ça vient de notre nature, d'où nous vient cette envie de faire telle chose. Et c'est vrai que si on peut se gouverner en connaissance de cause, quand on dit, tiens, je vais envie de faire ça, est-ce que je le fais mu par moi-même, mu par le Saint-Esprit, ou est-ce que je repère pas une tentation du démon? C'est quand même drôlement important, puisque notre vie est un combat, et donc il ne faut pas se tromper de stratégie dans ce combat. Hein. Donc, je ne vais pas les détailler, mais rappelez-vous, je vous les expose si vous ne les aviez jamais entendus, que notamment la première règle, c'est pour les personnes qui s'enfoncent dans le péché régulièrement, elles n'arrivent pas à s'en sortir, et surtout elles ne pensent pas à s'en sortir. Le démon, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va encourager, il va endormir la conscience, il va la caresser dans le sens du poil, et donc ne jamais remettre en cause cette situation, et on le comprend, puisque la situation, on pourrait dire, est acquise, elle est toujours provisoirement acquise, tant qu'on n'est pas mort, mais elle est acquise, en tout cas, au moment où il nous tient éventuellement sous ce péché mortel. Alors que le bon esprit, le Saint-Esprit, va au contraire suggérer en nous, susciter en nous, de la contradiction, un réveil, un remords, une prise de conscience que ça ne va pas, cette situation. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On écoute qui ? Celui qui nous dit « ben non, c'est très bien comme ça » ou celui qui nous dit « mais c'était pas normal, il faut se corriger, il faut retourner se confesser, il faut retrouver le chemin de la sainteté, etc. » même si ça nous paraît complètement impossible à réaliser. Vous voyez ? Repérer la source d'inspiration de nos actes, discerner les esprits, esprit de Dieu ou l'esprit du démon. À l'inverse, la deuxième règle, ceux qui cherchent à se purifier de leurs péchés, qui se battent, qui sont sur l'arène du combat et qui tombent de temps en temps, c'est vrai, eh bien, ne doivent pas se décourager. Et là, c'est l'inverse. On va avoir le démon qui va chercher à nous rendre tristes, à nous décourager, c'est pas possible, tu t'es tellement de fois relevé, aimé, t'es retombé à chaque fois, que de toute façon, pourquoi tu vas te relever? Pourquoi tu vas te chercher à te relever par la confession, par exemple, alors que t'es sûr de retomber après? Vous voyez, ce découragement qui va être mis dans l'esprit, et à l'inverse, le Saint-Esprit qui va encourager, qui va nous montrer que oui, il y a des chutes, mais ça n'est pas la chute qui est la plus grave. C'est le refus de la miséricorde de Dieu qui est le plus grave. Et il y aura peut-être ce dialogue intérieur en nous et qui va nous demander un choix. Qui allons-nous suivre ? Règle des consolations et désolations spirituelles. Je ne voudrais pas faire j'ai pas le temps du tout ce soir, mais allez dans ces pages si vous ne l'avez jamais fait, page du livre bleu, donc, n'hésitez pas à demander conseil sur l'usage de ces règles. Donc c'est important de l'avoir en tête. C'est ce discernement des esprits. Et surtout si vous avez déjà fait des retraites Saint-Ignace, on a tous besoin d'y revenir. On a entendu parler de ça, mais est-ce qu'on utilise vraiment efficacement cette connaissance des esprits ? Autre moyen dont on vous a déjà parlé, donc j'irai vite, c'est l'examen de conscience, qui est évidemment un temps particulièrement efficace pour faire le point de la situation. Après une opération militaire, on fait un débriefing, donc là c'est pareil, on a mené une journée de combat, il faut voir où on en est. Qu'est-ce qu'on a fait des forces ? Comment a-t-on utilisé les forces mises en présence ? Alors le bilan, vous connaissez, moi je conseille de le faire en trois parties, je ne sais pas ce qu'on vous a dit tout à l'heure ou hier, ou tout à l'heure. Je vous conseille de faire en trois parties, en tout cas je conseille à mes élèves, c'est d'avoir toujours devant les yeux ce qu'on a fait de bien pour le ramener à Dieu, ce qu'on a fait de mal pour se rendre compte qu'on y était nous seuls en cause, c'est nous seuls qui avons fait ce mal malgré les grâces qui nous avaient été données, et puis prendre des résolutions qui soient pas dispersées, qui soient un point précis sur lequel on va pouvoir accentuer nos efforts pour le lendemain. A priori, on fait ça le soir. Pourquoi inclure dans l'examen de conscience ce que l'on fait de bien ? Ben parce que sinon, on tombe vite dans le découragement, de se retrouver toujours à l'heure du débriefing avec toujours les mêmes pertes et puis pas de profit en vue. Et c'est décourageant. On n'est pas là pour se décourager. Un exercice comme l'examen de conscience n'a pas pour but de vous démoraliser avant de vous endormir. Donc il ne s'agit pas d'entretenir ce genre de défaitisme. Alors il faut absolument avoir en tête cela. Et ça nous permet surtout de remercier Dieu de voir ce bien qu'on a pu faire. Là encore, Magnificat. On a fait du bien. Il est quand même rare qu'une journée se passe avec un bilan complètement négatif. Et même si on avait perdu la vie de la grâce, eh bien, il faut essayer tout de suite de voir ce qui, peut-être que ça aurait pu être plus catastrophique que ça ne l'a été. Alors évidemment, faut pas se rassurer comme ça en disant, oui, j'aurais pu faire pire, donc après tout, tout va bien. S'il y a eu peur de la grâce, c'est gravissime. Mais, voyons aussi peut-être la miséricorde de Dieu qui m'a empêché d'aller plus loin. C'est dans ce sens-là que je vais te parler. Et alors vite, on revient vers Dieu, on cherche à revenir vers Dieu, on fait un acte de contrition parfaite et on cherche à se confesser le plus tôt possible. Donc l'examen de conscience, qui va nous permettre aussi de voir nos défauts et de savoir où on en est. Et puis, enfin, agir. Cette action, elle va user des moyens qui sont donnés par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est bien sûr la vie de la grâce. Donc les sacrements et la prière. Les sacrements qui sont des dons de grâce et qui viennent nous donner des forces pour ce combat. Alors bien sûr, je parle du sacrement de pénitence et de l'Eucharistie, le plus grand des sacrements, où nous recevons non seulement des grâces, mais le chef du combat, celui qui donne l'énergie, la grâce pour ce combat. Donc, on est avec le chef des armées, hein, le Dieu des armées, pour reprendre la Sainte Écriture. Alors, il faut vivre dans cette foi en la grâce. Trop souvent, nos chutes, nos découragements sont dus à une perte de foi en la grâce et en sa puissance. Et ça se vérifie. Donc, c'est cet état qui fait que, effectivement, on sait qu'il faut aller se confesser, on sait qu'il faut communier, on sait qu'il faut prier, et pourtant, eh bien, on fait comme si ça n'avait pas d'efficacité. C'est-à-dire que, de notre point de vue, on n'y croit pas tellement que ça. Alors, effectivement, là encore, je garde l'image militaire, mais si on part au combat en étant sûr qu'on va perdre, on va pas détenir le terrain longtemps. On va vite reculer parce qu'on va se dire, bah oui, j'avais raison, donc il faut bien que je laisse la place à ceux qui envahissent. Bon. Alors vous voyez, l'attitude, elle est la même devant le démon. On fait la comparaison avec les chiens. Vous savez, il paraît que les chiens, enfin, j'ai testé une fois, je me suis fait mordre, mais, on avance crânement devant le chien qui aboie et puis, soi-disant, il recule. Bon. C'était pas loin d'ici d'ailleurs, c'était au séminaire. De fait, j'avais pas peur de chien et je me suis fait sérieusement réduire un morceau de membre. Alors, donc, si on est comme ça face au démon, on a effectivement le même résultat, c'est-à-dire qu'on va perdre. On va perdre. Si on a cette force de dire j'ai la grâce de Dieu, j'ai notre Seigneur avec moi, qu'est-ce qui pourra m'arriver? Relisez les psaumes qui sont exactement la source de ces phrases que je vous donne. Qui pourra me séparer de l'amour de Dieu, dit saint Paul, si j'ai cette charité? Et donc il faut avoir cet esprit de foi en la puissance de la grâce. Et bien sûr, comme je suis dans cette partie qui vous demande d'agir, c'est évidemment aussi avec tout ce que nous demande notre Seigneur, toute cette... relisez l'Évangile, voyez ce qu'il nous indique à faire. Qu'est-ce qu'il nous indique à faire? Fuir le péché, oui, mais aussi faire du bien, faire des œuvres de miséricorde, faire des mortifications, qui sont autant de protections contre ces foyers de concupiscence, on l'a vu. Et donc, si l'on voit... si l'on est en pleine action avec tous ces moyens que notre Seigneur nous a donnés, si l'on prend la force dans la grâce des sacrements, dans la grâce de la prière, eh bien nous sommes dans ce combat et il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas victorieux. Ça n'est pas plus compliqué que cela. Ça ne veut pas dire que c'est facile à vivre, hein, ça n'a rien à voir. Mais ça n'est pas plus compliqué que cela. Et c'est déjà beaucoup que ça soit simple. Alors, fuir le péché, pratiquer la vertu, vous voyez, on a tout résumé quand on a dit ça. Maintenant, il faut voir concrètement ce que moi, enfin chacun doit dire ça, ce que moi je vais pouvoir mettre en place comme stratégie avec mon état de vie actuel, avec mes difficultés, mes faiblesses. Il faut connaître la faiblesse de son armée. Et il faut savoir où sont les points faibles. Donc il faut se connaître, d'où l'examen de conscience, d'où la confession, d'où la prière. Et durant la retraite, je termine par cela, je vous l'avais promis, c'est qu'il faut évidemment ne pas s'étonner de vivre parfois un petit peu en très peu de temps ces désolations, ces consolations ou ces tentations qui peuvent exister sur certains points mais qui ont trait à la retraite. J'ai envie de parler. D'habitude, je suis calme, j'ai pas du tout envie de parler. À voir. Et puis là, je sais pas pourquoi, parce qu'on m'a dit de me taire, j'ai envie de parler. Bon, alors vous voyez, ça peut être irrépressible. Alors du coup, eh ben, c'est une tentation, tout simplement. Une tentation qui a l'air idiote, qui est ridicule, et que vous êtes les premières à vous dire, ben non, c'est pas habituel, je suis pas comme ça. Eh ben, c'est pas grave. On est comme ça, c'est une tentation, et on réagit de la même façon que lorsque c'est une tentation qui nous paraît moins ridicule, plus sérieuse, plus digne de nous. Bon, voilà donc, et pour garder la persévérance dans ce combat, il faut toujours avoir en vue la récompense, je termine par cela, cette récompense, cette terre promise, comme l'indiquait Mgr Lefebvre dans le sermon tout à l'heure, n'oubliez pas que c'est le but de ce combat, c'est la couronne indestructible dont parlait saint Paul tout à l'heure, et cela doit nous réconforter dans la difficulté du combat. Ce combat, il est difficile, ne sous-estimons pas. Mais il aura une fin. Laquelle? Celle que nous aurons voulu avec la grâce de Dieu. Pas une autre. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tout se déroulera comme nous l'avons voulu, ça n'est pas ça. Mais ce se déroulera avec une fin heureuse si nous avons combattu jusqu'au bout, c'est notre Seigneur qui le dit. Ça sera une fin malheureuse et une récompense qui sera ce qu'on appelle un châtiment éternel si nous avons refusé ce combat, si nous avons refusé les moyens de ce combat. Alors courage, pensez à cette femme forte encore une fois et vivez désormais dans ce temps de la retraite en demandant cette grâce de force, la femme forte, la vertu cardinale de la force qui fait tenir bon vers le bien, malgré les obstacles. Et l'obstacle le plus terrible étant celui de la mort, la force se manifeste au plus haut point au moment de la mort. Donc, mais elle se manifeste dans bien d'autres circonstances, donc n'anticipons pas cette ultime circonstance, mais demandons la vertu surnaturelle de force qui nous permet de tenir. Nous sommes dans des temps difficiles, temps de crise, donc le combat, il est là aussi, hein, j'en ai pas parlé, mais c'est le combat extérieur, là, qui peut avoir des influences intérieures, bien entendu. Eh bien, ce combat doit être mené avec cette vertu de force. Et n'oubliez pas que c'est non seulement une vertu, mais un don du Saint-Esprit. C'est le seul cas où on a à la fois vertu surnaturelle cardinale et don du Saint-Esprit. C'est dire son importance, puisque ça nous permet d'être docile à la fois à Dieu par notre raison, mais aussi à Dieu dans le don, directement docile au Saint-Esprit. Voilà, nous rendons à la chapelle pour les complis.